merci ce soir d'être parmi nous pour la deuxième séance donc, des instantanés patrimoniaux. Et je vous laisse Sylvie Sagne la présentation de nos invités. Je vous remercie tous d'être présents.
Merci de l'invitation. Et donc, nous avons le plaisir d'être avec vous ce soir pour cette deuxième rencontre du cycle des instantanés patrimoniaux, consacrée à la fabrique des patrimoines. L'intitulé de cette deuxième rencontre reprend à un pluriel près celui de l'un des ouvrages dont il va être question ce soir. Le patrimoine, quoique hérité du passé, quoique déjà là, n'est pas d'emblée patrimoine. Mais il résulte d'une construction sociale, d'un processus de conversion, de distinction, de justification, d'assignation de valeur. Cela étant posé, comment s'effectuent ces opérations ? Par qui ? Sur quoi ? C'est là une vaste question qui occupe les sciences sociales en France maintenant depuis une bonne vingtaine d'années. Question à laquelle se sont confrontés les trois auteurs invités ce soir, à partir de terrains, d'objets, d'approches disciplinaires et de méthodologies différentes. Cette diversité qui est prometteuse pour nos échanges l'est d'autant plus que les trois regards portés sur cette fabrique du patrimoine ou des patrimoines, ces trois regards ont été échelonnés dans le temps. Dans l'ordre chronologique, non pas des publications, mais des enquêtes, nous entendrons donc Alain Chenevet, qui entre 1997 et 2002 s'est penché sur la patrimonialisation de la saline royale d'Arc-et-Senan. L'article « La saline royale d'Arc-et-Senan, un patrimoine sans mémoire » paru dans Les monuments sont habités, un ouvrage dirigé par Daniel Fabre et Anna Yuzo, paru en 2010. Cet article reprend de manière synthétique l'analyse développée dans La Saline d'Arc-et-Senan, de l'industrie à l'utopie, un ouvrage publié chez l'Harmattan en 2006. Alain Chenevet est sociologue. Depuis 2009 et après 5 ans passés à la direction du musée urbain Tony Garnier à Lyon, il occupe un poste de maître de conférence à l'Université de Bourgogne. Il est membre de l'équipe 2 du CIMEUS. C'est bien ça ?
Ça a changé.
C'est pour ça que je pose la question. Les CV en ligne ne sont pas toujours à jour. Vous me direz après. Il s'intéresse principalement au rôle du patrimoine et de la mémoire dans la requalification des espaces urbains, et plus précisément, depuis l'enquête conduite à la saline, sur la saline, sa recherche s'est étendue aux utopies réalisées, et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, ainsi qu'à la notion de VUE, valeur universelle exceptionnelle. Et à ce propos, je ne saurais trop vous recommander la lecture de « L'invention de la valeur universelle exceptionnelle » de l'UNESCO, un ouvrage qu'il a co-dirigé chez l'Harmattan, paru en 2015. Nathalie Hennick s'est quant à elle intéressée à l'inventaire général du patrimoine culturel, à l'histoire de ce service, à son fonctionnement, à sa place dans la chaîne patrimoniale et aux manières de patrimonialisation des chercheurs qui œuvrent donc au sein de ce service. L'enquête en question est restituée dans La fabrique du patrimoine de la cathédrale à la petite cuillère, paru en 2009.
Merci.
Ouvrage auquel font écho un certain nombre d'articles qui ont été réunis en 2013 dans un carnet du Laïc, un carnet donc accessible en ligne et qui s'intitule « Le travail de l'inventaire, cette étude sur l'administration patrimoniale ». Nathalie Hennick est sociologue, je ne sais pas s'il est très utile de vous présenter, mais bon, au cas où, directrice de recherche au CNRS, membre du CRAL, le Centre de recherche sur les arts et le langage, et membre associé au IAC Laïc. Sa bibliographie, qui est riche d'une bonne trentaine d'ouvrages, dont près de la moitié ont été traduits dans différentes langues, pas moins de 15, déploie un large spectre de centres d'intérêt qui va de la sociologie des professions artistiques et des pratiques culturelles à la sociologie des valeurs, en passant par la perception esthétique et la reconnaissance de l'art, les crises d'identité, l'épistémologie des sciences sociales. Olivier Belin, à ma droite, qui a dirigé avec Florence Ferrand l'éphémère et l'événement, paru tout récemment, fera quant à lui état d'un patrimoine en devenir, à savoir un continent d'archives encore mal cerné en France, celui des éphémères. Cet ouvrage fait suite à une publication en ligne, Les éphémères, un patrimoine à construire, qui est accessible sur le site de Fabula. Olivier Belin est maître de conférences en littérature française à l'université de Cergy-Pontoise. Il est membre du LT2D, ce qui veut dire lexique, texte, discours, dictionnaire. Après sa thèse publiée chez Garnier en 2011, qu'il a consacrée aux avant-gardes politiques et plus particulièrement à René Char, ses domaines de spécialité se sont élargis à la littérature francophone, moderne et contemporaine, à l'écriture poétique en amateur, notamment celle des lycéens, qu'il analyse dans Le Coin des Poètes, paru chez Pipa en 2014. Et puis il s'intéresse aussi aux archives de la littérature et notamment aux bibliothèques d'écrivains. Alors, pour mettre en regard ces trois approches de la fabrique des patrimoines, je vous propose à tous les trois d'en faire état alternativement sous trois angles, en commençant par une focale sur l'objet ou les objets de la patrimonialisation que vous avez rencontrés donc sur vos terrains, puis en suivant en procédant à un arrêt sur image sur les acteurs de la conversion patrimoniale, enfin en mettant en exergue les modalités qu'emprunte ce processus d'institution ou d'instauration patrimoniale. Cet ordonnancement de la discussion n'a rien de très original, je vous l'accorde, mais bon, je crois, en tout cas j'espère qu'il aura le mérite de rendre compte de la richesse de vos observations et analyses, et qu'ainsi ils donneront envie à ceux qui parmi nous ne les auraient pas encore lus de se jeter sur ces trois ouvrages. Mais préalablement, je vous invite tous les trois à situer vos enquêtes au regard du contexte institutionnel des biens ou du contexte scientifique des biens qui ont retenu votre attention, et aussi de dire un petit mot de la méthode que vous avez retenue pour mener ces enquêtes. Alors, s'agissant d'Alain, il s'agit d'un travail de thèse, mais aussi dans une certaine mesure, c'est le fruit d'une commande, est-ce qu'on peut dire ça?
Oui.
Oui, mais encore.
Bah, moi, ça fait effectivement depuis les années 90 maintenant que je travaille sur la question du patrimoine, mais je suis arrivé un peu au patrimoine par hasard. Même complètement par hasard, parce que j'avais fait un DEA sur les questions en sociologie du travail, sur les questions de capacité finalement de mobilisation dans les nouvelles formes d'individuation du travail, comment on pouvait se plaindre quand on était au chômage, etc. Et dans ce cadre-là, j'ai participé à une émission sur France Culture, ça remonte un peu quand même, en 96, avec Michel Verret, qui était spécialiste du monde ouvrier, pour parler précisément du monde ouvrier. Et dans cette émission, pour une raison qui parfois m'échappe encore, il y avait le directeur de la Salle Royale d'Arcachon, qui est quand même un des plus grands monuments français, un des premiers, en tout cas, inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO dès 1982, classé au titre des monuments historiques en 1926. Hein, donc, voilà, un patrimoine phare du patrimoine français. Et pendant cette émission, le directeur de la scène d'Arcachon dit « C'est incroyable, moi j'aimerais beaucoup que quelqu'un fasse l'histoire ouvrière de ce lieu dont on ne connaît rien. On ne connaît rien de cette histoire. C'est un lieu magnifique, extraordinaire, magique, une utopie réalisée, pour le coup, hein, faite par Claude Nicolas Ledoux, hein, qui, soit dit en passant, est aussi l'architecte des barrières d'octroi de Paris, qui était un architecte très en cours, juste avant la Révolution française, qui construisait beaucoup d'hôtels particuliers à Paris et ailleurs, enfin voilà. Mais ce lieu donc avait une force importante d'un point de vue patrimonial. Il était très reconnu, même dans sa région. Il est situé en Bourgogne-Franche-Comté, entre Besançon et Dijon, hein, vers une ville vers Dolge, pour vous situer un petit peu. Mais c'est un lieu avec une architecture vraiment stupéfiante. Hein, si vous avez l'occasion, je vous invite vraiment à participer à visiter, parce que ça ne peut pas vous laisser indifférent. C'est quand même un lieu tout à fait atypique. En arc de cercle, vous voyez, comme ça, bon, bref. Donc, je me retrouve à faire l'histoire ouvrière de ce lieu, donc il n'y avait absolument rien. Je découvre que, pour le coup, tout avait plus ou moins brûlé, ça n'avait pas ou peu intéressé les historiens, etc. Et en faisant cette recherche dans laquelle j'ai failli me perdre un peu, c'était non pas un travail de sociologue, qui était un travail pour le coup d'historien, dans lequel j'allais faire les archives judiciaires, les archives notariées, dans lequel je vais essayer de reconstituer les familles qui avaient vécu dans ce lieu, hein, parce qu'on me disait finalement ce lieu, c'est un lieu extraordinaire, hein, on peut le voir, et il ne peut avoir qu'une histoire extraordinaire en fait, hein. On n'imaginait pas que ce lieu aurait pu entre guillemets être banal. Et finalement, plus je travaillais sur ces questions, sur l'usine en tant que telle, sur les ouvriers, hein, sur ces modes de production, moi j'étais enferré là-dedans, etc. Et plus je découvrais finalement un monde assez... Une usine, c'était d'ailleurs une annexe d'une autre saline, qui avait peu ou pas beaucoup marché. Les gens étaient là, souvent appartenaient en fait à la sociologie locale, avaient peu bougé, c'était des noms qui s'étaient ensuite installés sur le village autour, enfin... Il y avait une sociologie et une organisation du travail qui ressemblait énormément à ce que je pouvais voir par ailleurs sur ce qu'avaient fait les historiens sur d'autres salines. Et donc, je continue à travailler là-dessus. Et à un moment donné, on me dit, voilà, il y a encore une émission sur France Culture dans un mois. On vient d'apprendre que la saline d'Arquesnon, on ne savait pas du tout, avait été un camp de rétention pour Zigane pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, comme j'y travaillais à l'époque, on me dit, mais il faut aller faire les archives. Donc je me retrouve à faire les archives de ce lieu. Et tout le monde était très inquiet sur ce que j'allais découvrir. Est-ce qu'on allait découvrir plein de morts, etc. Est-ce que ça allait faire une sorte de tâche, finalement, dans ce lieu très patrimonial. Et petit à petit, je me suis dit, mais c'est drôle, parce que cette saline royale d'Arquesnon, dans les années 60-70, elle appartenait au département du Doubs. Finalement, elle avait, dans tous les écrits que je trouvais, elle n'avait pas une grandeur telle que je pouvais découvrir ça dans les années 90. Je découvrais finalement une transformation assez récente. Et c'est là que je me suis commencé à me dire, mais c'est du patrimoine finalement. Alors, mais c'est quoi le patrimoine? J'ai commencé à dire, c'est quoi le patrimoine? Alors, c'est une convention, mais ça date de quoi? Ah oui, c'est un peu comme les monuments historiques, mais ça a évolué. Et puis on a, le nôtre patrimoine, ça s'appelle, ça, c'est pas très vieux en fait, c'est les années... 70, avant on appelait ça autre chose, etc. Et j'ai commencé à me dire, mais finalement, le patrimoine, c'est aussi une valeur, c'est une création. Et puis le patrimoine mondial, qu'est-ce que c'est que... Parce que pour le coup, c'est le patrimoine... Donc j'ai commencé à travailler et à me dire, mais... Et à découvrir, à faire là, pour le coup, la thèse centrale du livre, à dire finalement, ce lieu, finalement, c'est un peu, dans son histoire, c'est un peu oublié. C'est-à-dire qu'on a complètement oublié un temps par une succession d'histoires, donc on pourrait y revenir, mais... on a oublié que ça avait été une usine, en fait, une saline. Hein, on a oublié que ça avait été un camp de rétention pour Zigane, parce que ça avait été le cas. Hein, pendant des années, ça a été un lieu qui, avant tout, faisait de la production de sel, et dans lequel, effectivement, les éléments sur lesquels on pouvait s'appuyer, ce n'était pas construit comme un monument historique, etc. Et donc, je découvrais qu'il y avait une absence d'histoire. En tout cas, non, il n'y avait pas une absence d'histoire, il y avait une histoire très sélective. Qui était celle de Claude-Nicolas Ledoux, qui avait été repris comme étant en quelque sorte l'élément fort. Et en plus, lui-même, Claude-Nicolas Ledoux, avait eu une histoire, hein, parce que pendant un certain temps, comme ça avait été l'architecte du roi, il avait été un petit peu banni, et puis redécouvert au début des années 30 comme un des disciples de Le Corbusier, ou en tout cas un préfigurateur de Jeremy Bentham et d'un certain nombre d'histoire et d'architecture. Ensuite, il avait été un peu perçu comme une sorte d'architecte socialiste. Il y a eu une exégèse, en fait, qui le transformait selon les périodes. Et à un moment donné, effectivement, on va mettre la focale sur Claude-Nicolas Ledoux comme étant l'architecte du roi qui faisait les barrières d'octroi de Paris et les hôtels particuliers de la grande noblesse parisienne. Non, mais comme celui qui aurait inventé une cité idéale là, une sorte de cité idéale pour les ouvriers, et on va mettre complètement la focale là-dessus, en évacuant finalement le travail, les aspects techniques, puisque quand on rentrait au Saline d'Arquesnon, encore aujourd'hui, je vais bientôt m'arrêter, parce que quand vous rentrez dans la Saline d'Arquesnon, vous ne voyez pas que c'est une usine, hein, vous pensez que c'est plutôt un palais, vous pensez que c'est plutôt autre chose, donc on évacue ça, on évacue aussi évidemment les Tziganes, hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour en faire finalement une utopie patrimoniale, hein, c'est-à-dire un lieu qui, d'ordinaire, ou en tout cas d'usuel, en tout cas elle se transforme en quelque chose d'extraordinaire, parce que précisément, en s'oubliant, c'est-à-dire que c'est finalement la valeur, sur ce point de vue-là, serait une création qui, dans l'oubli, permettrait précisément de s'élever encore plus haut. La thèse étant de se dire que s'il n'y avait pas eu ça, on aurait eu des mémoires en lutte et probablement que l'inscription à la salle, au patrimoine mondial de l'UNESCO n'aurait pas pu se faire. Voilà. Donc, ce qui pose la question de l'authenticité et puis les distorsions entre les choix de l'histoire, les tri. Rapidement. D'accord. Rapidement, pas trop rapidement d'ailleurs.
Non, on va y revenir sur tout ça. Nathalie, même question.
La commande.
Et oui,
la commande. L'origine de l'enquête, en fait. Hein, parce qu'on est dans des disciplines, nous, on ne travaille pas sans enquête, heureusement. Ben moi, c'est un cas de figure idéal, puisque c'était une commande institutionnelle via Michel Melot, qui était à l'époque le directeur de l'inventaire du patrimoine, que j'avais connu quand il était directeur de la BPI au Centre Pompidou. Et je crois que c'était autour d'une partie de ping-pong à Cerisy. On était invités ensemble dans un colloque à Cerisy. Et il me dit, voilà, je viens d'être nommée à la tête du service de l'inventaire. Je trouve qu'il faudrait faire une enquête dans le service pour savoir comment ils travaillent, les gens de l'inventaire, parce qu'ils ont des tas de problèmes et ce serait bien qu'il y ait quelqu'un d'un peu extérieur qui aille regarder ça. Et voilà, donc il m'a demandé si ça m'intéresserait. Et j'ai sauté sur l'occasion parce que un de mes domaines de recherche, c'est la perception esthétique, c'est-à-dire à quelles conditions un objet quelconque peut être perçu et évalué en fonction de critères esthétiques plutôt que de critères fonctionnels, techniques, économiques, etc. Donc j'avais notamment un petit peu travaillé ça à propos de l'art contemporain. Et puis je m'intéressais aussi beaucoup depuis le début des années 80 à ce que j'appelais le registre esthétique, c'est-à-dire le registre de valeur, hein, la façon dont... ça a un lien évidemment avec la perception esthétique, puisque lorsqu'on perçoit esthétiquement quelque chose, on l'évalue aussi esthétiquement, donc il y avait bien sûr un lien entre les deux. Et donc je me suis dit, voilà, à une occasion en or, de faire un beau terrain sur la question de la perception esthétique, à propos du patrimoine, comment est-ce que des objets en viennent à être qualifiés esthétiquement par des spécialistes, à savoir les historiens d'art qui constituent le corps de l'inventaire. Et je m'apprêtais donc à travailler là-dessus. Et puis, je me souviens le premier jour quand je suis arrivée sur le terrain, donc j'avais décidé avec les responsables du service de l'inventaire de choisir un petit nombre de régions, parce qu'on ne pouvait pas faire sur toutes les régions. Donc je leur avais demandé de me construire un petit échantillon assez contrasté de différents cas de figure. Et donc l'idée, c'était que j'accompagnais sur le terrain, dans ces différentes régions, les chercheurs de l'inventaire pendant leur travail pour observer. Et l'idée étant de tester aussi une méthode totalement ethnographique. Je ne suis pas ethnologue à l'origine, mais j'avais envie d'avoir vraiment une méthode qui ne soit pas on tend le micro et on pose un questionnaire. Voilà. Et donc j'arrive sur le terrain en compagnie d'une dame qui était directrice de l'inventaire régional. Et puis j'entends, il y avait trois chercheuses qui s'apprêtaient à commencer leur journée de travail, et l'une d'elles me sort un truc d'un ton un peu ironique sur le thème « Ah, vous cherchez du beau ?» et se met à ricaner. Bon, et la responsable me dit « Ne vous inquiétez pas, elle n'est pas de très bonne humeur. » Sur le moment, je n'ai pas compris. Et en fait, après coup, j'ai compris que l'inventaire, c'est tout sauf un lieu de perception esthétique, puisque dans les arguments que les chercheurs sont amenés à produire pour justifier qu'ils considèrent un bâtiment ou un objet mobilier comme susceptible d'être patrimonialisé, au moins symboliquement par les mots et les images, à défaut de l'être juridiquement par l'inscription ou le classement, dans ces critères ne figure surtout pas la beauté, qui est interdite. C'est le mot tabou à l'inventaire. On n'a pas le droit de dire c'est beau. Et j'ai recueilli, enfin on en reparlera, mais un certain nombre d'exemples assez hilarants de chercheurs qui spontanément disent qu'est-ce que c'est moche ce truc. Enfin, je veux dire, c'est pas très intéressant. Il y a une euphémisation permanente puisqu'on n'a pas le droit de parler de beauté. Donc on reviendra sur les exemples lesquels on n'a pas le droit de parler de beauté. Mais je me suis retrouvée donc dans cette situation idéale où on m'offre sur un plateau. Alors ça ne coûtait pas très cher, hein, mais, je ne sais pas, quelques milliers d'euros quoi, qui m'a été proposé par le service pour payer mes déplacements, les transcriptions, etc. Bon. Donc c'était offert sur un plateau, j'avais accès aux données, j'avais accès au terrain, j'avais accès au personnel, etc. Sauf que c'était sur une problématique qui n'avait rien à voir avec mon objet, ce qui est quand même un tout petit peu problématique, c'est le cas de le dire. Donc j'ai été obligée, en fait, de modifier complètement mon objet pour l'adapter à ce que j'étais en train d'étudier, à savoir un service qui s'occupait du patrimoine, mais pas d'esthétique. Et ça a été, pour moi, évidemment, passionnant. Ensuite,
le contrepoint.
Le contrepoint, voilà. Donc, cas de figure à la fois idéal d'un point de vue matériel et humain et organisationnel, et en même temps très compliqué à gérer pour moi d'un point de vue intellectuel.
D'accord. Et donc, l'aventure des éphémères, maintenant.
Oui. C'est une aventure qui est née d'un projet de recherche, d'un projet scientifique, qui a été porté par ma collègue à l'Université de Cergy, Florence Ferrand. Alors, elle et moi, nous sommes des littéraires, spécialistes d'études de littérature française, elle pour le XVIIIe siècle et moi pour les avant-gardes et la poésie contemporaine. Et il se trouve que dans nos corpus, en fait, se trouvent des documents qui n'ont pas une légitimité telle que le livre, la revue, le manuscrit, qui sont ces éphémères. Alors Florence, elle travaille encore sur, on va dire, la naissance de la critique d'art au XVIIIe siècle, en particulier à partir de toute une série de brochures, de pamphlets, de documents qui s'échangent ou qui s'échangeaient à l'occasion des salons de peinture au XVIIIe siècle. C'est bien dû à toute une littérature polémique qui est un creuset finalement où s'est constitué un discours sur l'art. Et il a fallu pour Florence penser ce corpus qui n'avait pas une certaine légitimité et parfois aussi on lui a fait remarquer. Et de mon côté, moi j'ai abordé les éphémères par deux biais, celui des avant-gardes et l'utilisation massive qu'elles ont pu faire, comme pour le surréalisme, de tracts, de bulletins de vote, de papillons, etc. Et d'autre part, vous avez évoqué l'étude que j'ai faite de l'écriture poétique en amateur, j'ai travaillé sur des journaux lycéens, donc c'était une commande d'un organisme qui s'appelle le CLEMI, qui est un organisme du ministère de l'Enseignement, du ministère de l'Éducation nationale, qui se charge de l'éducation aux médias. Et j'avais étudié ces journaux lycéens, qui sont des publications artisanales, souvent faites à la photocopieuse, qu'on distribue dans l'enceinte du lycée, etc. Et on publie évidemment plein de nouvelles du lycée, mais aussi des poèmes, et c'est en ça que ça m'intéressait. Et donc, voilà comment nous sommes entrés dans dans ce domaine des éphémères. Et c'est avéré qu'il y avait, autour de 2012, un labex qui s'est constitué à l'université de Cergy, entre autres, sur la question des patrimoines matériels, et Florence a porté l'idée, je l'ai suivi, sur la question des éphémères, et donc qui, a priori, sont des documents qu'on jette, après usage. Et donc, évidemment, leur patrimonialisation s'avère paradoxale et compliquée. Et à partir de là, on a élargi, nous avons débarqué un peu un peu naïvement, mais je pense que c'est pour ça qu'on a pu se lancer dans ce continent des éphémères, rencontrant des historiens du livre, des gens de Versailles, comme Jean-Yves Mollier, se sont associés au projet, des conservateurs de la BNF, des archives nationales, des gens de la Bodleian Library à Oxford, qui a une magnifique collection d'éphémères, ephemera, puisque le terme en fait provient des études anglo-saxonnes, et on l'a en quelque sorte importé et acclimaté. Et donc voilà ce qui a lié toute une série d'acteurs, où nous avons essayé de comprendre, chercheurs, conservateurs, collectionneurs aussi, puisque le milieu des collectionneurs est très actif dans le marché et dans la connaissance, la valorisation aussi des éphémères, à savoir s'il y avait un trait unificateur entre des objets aussi divers que les affiches, les tracts, les étiquettes de camembert, les enveloppes de papier d'orange, par exemple, sont très développées, les bagues de cigares. Il y a des collectionneurs, il y a un marché, et il y a une valorisation qui va dépendre, et tout ça étant très fragmenté. Est-ce qu'on peut constituer un trait commun, à part une définition négative des éphémères? Ça n'est ni un livre, ni un périodique. Alors évidemment, ça a donné lieu à pas mal de débats et un premier colloque, donc, ce qui était publié sur Fabula, pour essayer de préciser la catégorie ou pas, et d'en voir le flou aussi, puisqu'il y a un continuum, un livre peut être entouré d'éphémères, un marque-page, un bandeau publicitaire, un prospectus, vous en avez sur les chaises actuellement. Donc, il y a une espèce d'invasion un peu effrayante parfois de l'éphémère. Et en même temps, les conservateurs aussi nous disaient, par exemple, voilà, à la BNF ou dans des bibliothèques régionales, parfois ça peut arriver par le dépôt légal, ça dépend des périodes, parfois par le dépôt légal imprimeur qui accueille les travaux de ville, par exemple. Et qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on ne sait pas quoi en faire. On les met dans des cartons et on les entrepose. Mais un éphémère qui n'a ni date, ni éditeur, ni auteur, comment on signale, comment on classe, et tous ces problèmes-là, évidemment, se répercutent sur les chercheurs en histoire, en anthropologie, en littérature, en histoire de l'art, pour donner à ces corpus une existence, une légitimité, des frontières, et les caractériser. Donc voilà comment, en quelque sorte, ce terrain des éphémères s'est ouvert à nous.
C'est constitué. Voilà, alors cela étant posé, on va entrer dans le vif du sujet, qu'on y est déjà, en s'attachant un peu à mieux cerner ces patrimoines que vous avez observés dans leur processus justement de patrimonialisation. Et une des questions qui se pose, c'est justement, est-ce qu'ils témoignent tous de l'extension de la désignation patrimoniale si caractéristique de notre âge du patrimoine, comme disait Daniel Fabre. Alors Alain a déjà plus ou moins répondu à la question, à savoir oui et non. Dans le cas d'Arc et Senans, oui en tant que site industriel et de fait le premier inscrit à l'UNESCO, et non compte tenu finalement du sens qui lui est conféré et du nouvel usage que l'on a fini par imaginer pour lui dans les années 60-70. Peut-être préciser un peu l'histoire justement de ce site.
Alors oui, c'est vrai que c'est très historiquement, enfin daté, ça. Enfin, c'est un peu porte ouverte auprès de dire ça, enfin, mais c'est les années 60-70. Là, quand on regarde le livre « Les monuments sont habités », Daniel Fabre dit précisément que le patrimoine, c'est évidemment pas toujours l'inventaire, pas toujours les services des monuments historiques, mais évidemment les habitants, les visiteurs qui s'approprient les choses et... Puis aujourd'hui, d'ailleurs, on parle souvent, quand on... Il y a des injonctions, l'UNESCO, aujourd'hui, quand on veut inscrire un site, on ne parle plus de site, précisément, on parle de territoire, on parle de zone élargie, de zone tampon, dans lequel la question des habitants, la question de la prise en compte de la diversité des acteurs est devenue, finalement, une marque de fabrique de la constitution patrimoniale. Là, on est dans les années 70, c'est une caricature, Arques, non ? Enfin, je veux dire, c'est une caricature en ce sens que, précisément, là, on est vraiment dans l'évacuation des habitants, très clairement, l'évacuation des locaux, au profit d'une réappropriation. Enfin, moi, je disais à chaque fois, c'était comme c'était un lieu de la noblesse. Voilà, elle avait été un peu presque réappropriée par la noblesse d'État, pour le coup, la bourgeoisie parisienne, hein, c'était des gens comme Michel Parent, qui était directeur de la DATAR, pas directeur de la DATAR, il était inspecteur général des monuments historiques, c'était Serge Antoine qui était directeur de la DATAR, etc. Enfin, il y avait tout un... Dans l'association, il y avait trois ministres, il y avait un conseiller, il y avait une personne qui bossait au Conseil d'État. Enfin, je découvrais vraiment, pour le coup, en faisant mes études un peu ethnographiques à l'époque, je découvrais vraiment en parallèle ce que c'était, ce qu'on pouvait appeler, pour le coup, cette noblesse d'État qui avait cette capacité à relier de l'argent, à faire venir des grandes industries comme EDF, comme Air France, qui ils ont inventé le mécénat Arques-Senans, enfin les lois avec Serge Antoine, en disant comment on va pouvoir pour faire intervenir de l'argent privé dans du public, etc. Donc ils avaient une capacité, une puissance de feu qui était importante. Et là, on est vraiment dans, j'irais presque dans le côté un peu, oui, dans le côté un peu magique où des personnes importantes donnent de l'aura tout simplement en désignant ça comme étant du patrimoine. J'ai même eu une anecdote pour dire ça. Michel Parent, qui est décédé, qui était inspecteur des monuments et des sites à Paris, qui a été aussi qui a été à l'origine de l'UNESCO, etc., me disait Arques-Senans, personne ne connaissait Arques-Senans. Vous savez, c'était, quand on parlait d'Arques-Senans dans les années 70, c'était inconnu. Comment on fait pour faire une star au cinéma? Moi, j'ai pris Arques-Senans et je l'ai mis au milieu des grands monuments reconnus. Et subitement, on l'a fait exister. On a fait faire un timbre par le ministre des Postes, hein, Centre du Futur Arques-Senans. Enfin, ils avaient cette capacité en peu de temps, en 10 ans, franchement, en 10 ans, de 70, où le département du Doubs souhaite vente de bâtiments, 12 ans plus tard, ils sont inscrits sur le patrimoine mondial de l'UNESCO sur un argumentaire qui tient en 25 lignes. Hein, j'ai demandé le dossier qui est à l'UNESCO. Aujourd'hui, si vous voulez faire un dossier de l'UNESCO, il va falloir vous travailler avec les universités, il va falloir vous rendiez un document qui fait 700 pages. L'argumentaire pour inscrire au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO de la scène d'Arcachon, c'est 25 lignes, dans lequel on met uniquement le fait que c'est une utopie avortée et que c'est un élément extraordinaire qui n'est nulle part ailleurs. Donc ils avaient cette capacité, là on le voit très clairement, ces acteurs-là, entre guillemets, qui ont tous les réseaux en fait, hein, tous les réseaux à la fois de pouvoir et parisiens, ont cette capacité énorme de pouvoir finalement consacrer un bâtiment. Hein. Ça, c'est, sur Arcachon, c'est un exemple pur, je dirais presque, qu'on voit rarement.
Ouais, donc on a anticipé là avec vous la question des acteurs. On reviendra peut-être à cette histoire d'extinction patrimoniale tout à l'heure. Donc, s'agissant de l'inventaire, on peut peut-être rappeler un peu l'histoire de, cette, de
oui.
ce service
et
qui travaille.
Oui, et ça noue avec la question de l'extension hein, du domaine du patrimoine. Ouais. Donc, moi, j'ai commencé par ne rien comprendre, hein, comme souvent quand on arrive sur un terrain. D'abord parce que inventaire, moi, je pensais, comme probablement plusieurs d'entre vous, qu'il s'agissait du patrimoine inscrit à l'inventaire. Inscrit à l'inventaire, sous-entendu supplémentaire des monuments historiques. Or, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ça fait partie des gentillesses de la direction du patrimoine. Elle a utilisé le même terme pour qualifier une simple extension des procédures de classement qui permettent à un édifice ou à un objet mobilier d'être considéré comme relevant d'une protection patrimoniale par l'État, qui implique toutes sortes de contraintes, de subventions, etc., etc. Et d'autre part, le service de l'inventaire du patrimoine qui date de 1964, qui avait été créé par André Chastel grâce au ministère d'André Malraux, qui est donc beaucoup plus récent que le service des monuments historiques qui, lui, date du 19e siècle. Et donc, ce service de l'inventaire, lui, a pour but non pas le classement effectif, mais une forme de patrimonialisation symbolique, tout simplement par l'étude, par le recensement, le fait d'inscrire un objet ou un édifice dans une liste avec un descriptif, des dates, des images, etc. Enfin, tout ce qui le permet de le documenter sans forcément le conserver matériellement, puisque ce qui est dans l'inventaire, dans le service de l'inventaire, non pas dans l'inscription à l'inventaire, ce qui, est de, qui s'appelle d'ailleurs aujourd'hui maintenant le service je ne sais plus, enfin ils ont modifié le terme justement pour éviter cette ambiguïté.
Au ministère ou dans les
régions ? Au ministère.
Y compris dans les régions ?
Oui, parce que ce qui est en plus compliqué de mon travail, c'est que j'ai commencé l'enquête avant qu'il y ait la décentralisation. Et en plein milieu de mon enquête, ils se sont mis à décentraliser, ce qui fait que les chercheurs me voyaient arriver sur le terrain, ils pensaient que je faisais une mission d'inspection cachée du ministère pour essayer de voir comment il fallait procéder pour la décentralisation. Enfin, je n'oublie pas les problèmes. Bon. Oui, donc maintenant, ça s'appelle l'inventaire du patrimoine, tout simplement. Mais à l'époque, le mot n'est tout simplement pas utilisé. Et donc, c'était l'inventaire des monuments et richesses artistiques de la France, qui était la première terminologie du service. Bon. Bref, donc, j'ai fini par comprendre, assez vite, heureusement, qu'il s'agissait simplement de sauvegarder symboliquement ces objets ou ces bâtiments en les documentant. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent rester intacts, ils peuvent très bien disparaître, mais au moins il y aura une documentation, des listes, des statistiques, des séries, etc. Bon. Donc c'est une mission purement scientifique, très déconnectée, à mon avis trop déconnectée, enfin, de la mission de sauvegarde matérielle dévolue au service des monuments historiques. Alors j'ai évidemment compris en même temps qu'il y a une hiérarchie interne au ministère de la Culture, le service des monuments historiques, c'est ancien, c'est chic, c'est des belles choses, alors que le service de l'inventaire, c'est récent, c'est plouc, et c'est que des ravants, quoi, des trucs vraiment moches. Quoi. Bon. D'où la plaisanterie de la dame quand j'arrive sur le terrain en me disant « Ah, vous voulez voir des trucs, vous n'allez pas vous amuser. Bon. » Donc déjà, il faut arriver à assimiler toutes ces questions-là qui sont compliquées. Ce que quand même j'avais en tête, et heureusement qu'il s'est confirmé, c'est que avec l'inventaire, j'aurais affaire non pas à des objets typiques des monuments historiques, des objets centraux dans la typologie des monuments tels que les châteaux forts, les églises, les cathédrales, etc., mais à des objets un peu marginaux, hein, un peu à la limite. Et justement, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment se travaille la frontière entre le non-patrimonial et le patrimonial. Donc, de ce point de vue-là, je dois dire que je n'ai pas été déçue, j'étais vraiment au cœur de mon sujet. Et du même coup, ça m'a permis de mesurer, ce que je ne savais pas non plus avant de commencer, à quel point cette notion de patrimoine a subi une extension massive, et d'ailleurs je crois que l'introduction du livre nous appelle l'extension du domaine du patrimoine, puisque j'ai été obligée de faire l'historique de tout ça, de comprendre d'où venait le service des monuments historiques, puis le service de l'inventaire, et en faisant l'historique, j'ai réalisé que la notion même de patrimoine a subi une extension monumentale, c'est le cas de le dire, depuis le 19e siècle. Au départ, donc, elle était centrée, comme je viens de le dire, sur les grands monuments historiques. Peu à peu, elle s'est élargie à la fois dans le temps, puisque avant, il fallait que ce soit vraiment le Moyen-Âge ou la Renaissance pour être considéré comme patrimonial. Peu à peu, comme disait un chercheur de l'inventaire, on a gagné à peu près une génération tous les 5 ans, hein, d'avancer dans le temps. Vous savez sans doute que dans les années 70, la gare d'Orsay a failli être démolie parce que pour les architectes des bâtiments historiques, les gens des monuments historiques, c'était un bâtiment totalement inintéressant parce que datant de la fin du 19e siècle, c'était censé être une époque totalement inintéressante parce que trop récente. Et il a fallu des mobilisations d'associations et puis le traumatisme de la destruction juste avant des Halles de Balta pour que la gare d'Orsay soit sauvée. Bon. Donc on voit comment les choses évoluent très très vite, hein, en matière d'extension temporelle et aussi, et c'est très important, une extension typologique puisque on est allé vers des bâtiments de plus en plus triviaux, de plus en plus ordinaires, on s'est mis à s'intéresser à des fermes. Il y a eu toute aussi l'apparition des préoccupations d'associations de défense du petit patrimoine, comme on dit, alors protéger un lavoir, protéger un moulin, protéger, etc., enfin le petit patrimoine rural. Et ce travail, à partir des années 60, a beaucoup fait pour sensibiliser aussi à cette notion d'extension du patrimoine. Il y a eu l'apparition de la notion de patrimoine industriel, essentiellement à partir des années 80. Enfin, c'est là que ça s'est beaucoup développé, avec les friches industrielles, le début de l'intérêt pour les usines, les ponts, etc. Bon. Tout ça accompagné, bien sûr, d'une extension des disciplines concernées, puisque au départ, on était vraiment avec des historiens d'art pur et dur, historiens de l'architecture, et puis on se voit de plus en plus avec des historiens tout court et des ethnologues, qui vont s'intéresser non plus tant au caractère extraordinaire, singulier, monumental des objets ou des bâtiments, mais à leur intérêt dans une typologie historique, à leur intérêt du point de vue de la documentation de l'histoire des usages, de l'histoire des techniques, et c'est comme ça que on se met à patrimonialiser, en tout cas à considérer comme intéressant des objets qu'on n'aurait tout simplement pas vus auparavant, hein, mais qui deviennent intéressants parce que le regard a changé et que le regard n'est plus seulement le regard esthète, je retombe sur mes pieds de ma problématique initiale, mais un regard documentaire qui, encore une fois, implique un élargissement des disciplines qui mobilisent la problématique. Alors, j'ajoute aussi, c'est très important le point de vue institutionnel, j'ai eu la chance de mener cette enquête à un moment où le laboratoire laïque, qui est très très présent dans tous les ouvrages qui sont sur la table là-bas, hein, qui avait été fondé par Daniel Fabre, qui est malheureusement disparu beaucoup trop tôt, ce laboratoire était en plein essor et fédérait toutes sortes de chercheurs formidables qui travaillaient beaucoup sur le patrimoine, et donc on a eu des séminaires extraordinaires. Bon, enfin, tous les livres que vous avez là sont pratiquement issus de séminaires du laïc. Bon. Et donc, du coup, j'ai demandé à ce que le laïc soit le porteur institutionnel de mon enquête, ce qui était très très bien, parce que ça m'a permis de bénéficier de toute cette effervescence intellectuelle, et notamment de me familiariser avec une autre extension du domaine du patrimoine, qui est la notion de patrimoine culturel immatériel, dont une spécialiste,
avec son inventaire, voilà, qui a aussi son inventaire,
qui a aussi maintenant son inventaire
pour ajouter un peu de trou.
Voilà. Et Chiara Bortolotto, qui est une très bonne spécialiste de l'histoire du PCI, comment dire. Au début, ça m'amusait parce que je disais l'histoire du PCI, Parti communiste italien. Non, c'est patrimoine culturel immatériel. Et donc voilà, j'ai aussi assisté à tout le début de la réflexion sur cette question de qu'est-ce que c'est qu'un patrimoine culturel immatériel, etc. Donc on a toutes ces formes d'extension du domaine du patrimoine qui sont non seulement spectaculaires, mais qui en plus se sont produites en une génération. C'est ça qui est formidable. À toute allure, c'est arrivé. Au point que le mot patrimoine, je l'ai découvert en écrivant ce qui allait devenir l'introduction du livre, n'est apparu dans l'espace public au sens où nous lui donnons aujourd'hui que dans les années 70, hein, notamment avec la création de l'année du patrimoine, et que, encore une fois, ce service de l'inventaire des monuments et richesses artistiques de la France n'a trouvé sa terminologie actuelle, l'inventaire du patrimoine, que en 2005. Vous voyez, c'est quand même extraordinaire. Un mot qui nous paraît évident, qui nous paraît avoir été présent toujours là, en fait, il a à peu près une génération. Bon. Je termine juste ce point sur un détail qui n'en est pas un, c'est que le symbole, d'une certaine façon, de cette extension polymorphe de la notion de patrimoine se trouve en couverture de ce livre, hein, puisque c'est la photographie d'une borne Michelin. Et c'était, je crois, le dernier jour de mon enquête dans un petit village de Bretagne. J'ai accompagné un jeune historien d'art qui débutait dans le métier. Et on allait donc dans un petit village, et à l'entrée du village, je l'ai vu freiner pile et sec, se précipiter hors de la voiture, prendre son appareil photo, ses notes, ses cahiers, etc., et s'accroupir devant une borne Michelin, et se mettre à photographier, à noter, à gratter pour avoir la date, le numéro d'inventaire, etc. Et donc, évidemment, je l'ai fait parler là-dessus, et il m'a dit, c'est intéressant comme histoire des usages de l'automobile. Ça date des années 20, c'est le début du tourisme automobile, ça documente parfaitement toute cette histoire-là, et donc c'est pour ça qu'elle me paraît intéressante, et donc je vais la mettre dans la série des objets intéressants trouvés dans ce village. Et je lui ai dit, mais vous pensez que tous vos collègues en feraient autant? Il me dit, non, vous plaisantez, la plupart ne la verraient tout simplement pas. Et il y a 20 ans, personne ne l'aurait vu, même moi, je ne l'aurais pas vu il y a 20 ans, vous voyez. Donc lui-même était conscient qu'il était en train d'élargir littéralement les frontières du patrimoine, et donc j'ai décidé de mettre cette borne en fin de livre et en couverture de l'ouvrage, parce que je trouvais que c'était un magnifique symbole, hein, de cette extension du domaine du patrimoine.
Merci. Du côté des éphémères, là aussi, on peut dire qu'on assiste à une extension de la désignation patrimoniale. Vous avez présenté dans l'ouvrage un certain nombre d'exemples. J'ai notamment découvert les écrans. Alors, je trouve un peu bizarre, a priori, de voir ce mot dans l'intitulé d'un article. Et puis, j'ai appris ce qu'était un écran.
Oui.
Voilà, alors c'est un exemple parmi d'autres de ces éphémères divers et variés qui font qu'on peut peut-être parler d'avenir, d'archives volantes non identifiées ou à identifier.
Oui. Ah oui, on est vraiment dans l'extension que vous décriviez, et là on poursuit le mouvement. Et alors, pour dire un mot de ces fameux écrans, alors n'imaginez pas quelque chose qui corresponde à nos tablettes ou à nos usages actuels. C'était au XVIIIe siècle principalement une espèce, alors pas d'éventail, mais de pare-feu. C'est-à-dire qu'il faut imaginer une petite languette avec ce papier que les bons messieurs, les belles dames de la société se mettaient devant le visage pour se protéger du rayonnement du feu. Donc c'était un écran qui permettait de se protéger, un usage mondain et tout à fait commode, qui évitait d'être trop rouge, ce qui aurait été évidemment malvenu dans la compagnie de l'époque. Et il se trouve que donc, la chercheuse Nathalie Rizzoni, qui a travaillé sur ces écrans, il y a des centres de production absolument considérables. La société était inondée d'écrans, de manufactures, et ils étaient illustrés. Et on peut. Tout ça a presque complètement disparu. C'est-à-dire que l'écran, c'est quelque chose qui a eu son lieu, son œuvre. On en retrouve quelques-uns. Alors maintenant, sur la cote des collectionneurs, ça a atteint des sommets. Du fait de la rareté et du fait de collectionneurs, de chercheurs qui revalorisent en quelque sorte l'objet en faisant une source pour l'histoire du théâtre en particulier. On représentait sur les écrans les scènes célèbres de pièces de théâtre qui se déroulaient, les moments forts, en quelque sorte, comme une espèce de roman photo, si vous voulez, où on aurait sélectionné les meilleures scènes avec des répliques, etc. Ou bien l'actualité littéraire et artistique du temps. Donc l'écran, évidemment, peut être repris de ce biais-là. Mais évidemment, on est dans l'extension, et ces écrans qui ont pour la plupart disparu sont reconnus aussi de cette façon-là. Mais je voudrais prendre un ou deux exemples pour montrer cette différence de regard qui a pu changer sur ces objets, dans le prolongement de ce que vous dites. Une des plus grandes collections d'éphémères se situe donc à Oxford, à la Bodleian, la John Johnson Collection, faite par M. John Johnson, qui était imprimeur à Oxford, enfin pour l'université d'Oxford. Et dans les années 30, l'une des consignes qui était donnée à la bibliothèque, c'était de faire de la place dans les rayons. Et pour faire de la place, eh bien, il fallait détruire tout ce qu'on appellerait les éphémères, et donc des brochures, etc., des affiches. Et lui s'est dit, c'est quand même dommage de jeter tous ces documents qui peuvent nous en apprendre sur la mentalité ou l'histoire des techniques d'impression, puisqu'il était imprimeur. Lui s'intéressait vraiment au côté graphique et à l'histoire des techniques d'impression, telles qu'on pouvait les reconstituer à partir de ces documents hérités, puisque les travaux de Ville en fournissent une part importante. Et c'est de cette manière qu'il a constitué une collection impressionnante de plusieurs millions d'éphémères qui est conservée. Et donc, tout ça passant par une reconnaissance des expositions, des prises en charge par des collectionneurs à partir des années 1960 au Royaume-Uni et par d'autres biais en France. On n'a pas appelé ça les éphémères, mais dès la fin du 19e siècle. C'est de l'extension de la bibliophilie, en fait. Quelqu'un comme John Grant Carteret, publié en 1896, Vieux papier, vieilles images. Et c'est vraiment le collectionnisme, la bibliophilie, qui le fait s'intéresser par le biais du folklore, de la culture populaire, de l'influence des imageries, comme l'a étudié Philippe Hamon, et bien d'aller voir dans l'art populaire toutes ces images, ces documents qui circulent, et d'y porter un regard, mais qui n'intéressera ensuite, peut-être que dans un second temps, des institutions et des chercheurs de manière plus systématique.
L'association des vieux papiers.
Le vieux papier.
C'est le vieux papier.
Le vieux papier qui était fondé en 1900, donc c'est vraiment.
Qui est symptomatique de ce moment.
Oui, tout à fait. Et juste un dernier exemple pour montrer, là aussi, l'accélération du processus. On s'est intéressé au cas, enfin, en 2015, suite aux attentats qui ont frappé la France et le Bataclan. Mm-hmm. On a vu très vite fleurir Place de la République, plein d'hommages, de dessins, de cartes, etc. Et tout a été sanctuarisé, pris en charge par les archives de Paris, comme s'il fallait saisir sur l'instant tout ce moment ressenti comme historique. C'est un petit peu aussi le propos de l'ouvrage, les éphémères et l'événement. L'événement, ce qu'on considère comme un événement historique, permet de jouer un filtre qui va sauvegarder, préserver, donner une valeur à des éphémères qui vont survivre dans l'événement.
D'accord. On est déjà là dans les modalités de la patrimonialisation, mais si on reste encore un peu sur la question des acteurs, ceci dit, je ne sais pas de combien de temps on dispose.
Et voilà, c'est ça. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que vous pouvez à tout moment prendre la parole et poser des questions parce que ça va pas clair, parce que vous avez une idée, que voilà, c'est ça s'appelle forum, donc voilà. Donc voilà, c'est et donc j'ai pas de montre.
C'est 7h05.
Et 7h15, voilà, 7h15, les orateurs pourront arrêter de parler, et à ce moment-là, la discussion, les débats, et pourront peut-être commencer dans un quart d'heure, si vous voulez.
D'accord. Donc je voulais juste qu'on aborde la question de la cohabitation, parce que ce qui est commun à vos trois terrains, si je puis dire, c'est que les acteurs de la patrimonialisation se situent plutôt du côté des experts, même si Arc et Senin, c'est aussi des politiques. Mais en tout cas, ce ne sont pas les gens, entre guillemets. Or, aujourd'hui, nous sommes à l'heure où, justement, triomphe le droit à la patrimonialisation qui est revendiqué et qui est même aujourd'hui reconnu à ce qu'on appelle, dans la terminologie du patrimoine, les communautés. Et c'est un droit que consacre, entre autres, la Convention de Faro ou encore la Convention pour la sauvegarde du PCI. Et c'est un droit qui va de pair avec le renversement de l'expertise et de l'autorité à désigner ce qui fait patrimoine. Donc j'imagine que sur vos terrains, alors à Arc et Senin, vous avez bien montré que les gens ont été, enfin les locaux ont été complètement oubliés, autant que l'histoire de la Saline. Mais sur le terrain de l'inventaire, enfin, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, mais sur le terrain de l'inventaire, et alors peut-être que là, les gens ne sont pas encore trop concernés par les éphémères, mais j'imagine quand même qu'entre spécialistes, entre collectionneurs, historiens, entre conservateurs et littéraires, enfin, j'imagine qu'il doit y avoir, enfin, que tout le monde n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Voilà.
Oui, bah, les acteurs, pour moi, évidemment, sont d'abord ceux qui font l'inventaire du patrimoine, donc essentiellement des historiens d'art, des gens qui ont une formation d'historien d'art ou d'architecture. Donc c'est eux que j'étudiais. Moi, j'étudiais pas leurs objets, j'étudiais eux-mêmes confrontés à leurs objets. Simplement, ils ne travaillent pas tout seuls et j'ai très vite compris qu'ils travaillent avec des procédures. Donc, ils ont un guide méthodologique, ils ont des formations régulières à Paris pour les aider à mieux travailler. Ils sont obligés, parce qu'il faut qu'il y ait un minimum d'homogénéisation du travail pour que, au niveau national, puisque le patrimoine est au niveau national, on ait à peu près les mêmes critères, les mêmes façons de travailler. Or, cette homogénéisation est extrêmement difficile parce que ils travaillent dans des endroits totalement décentralisés, dans des lieux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc il y a tout un travail d'homogénéisation des méthodes qui se faisait à l'époque à Paris, qui est très complexe et qui est très problématique et houleux. Donc j'ai demandé à assister à plusieurs séances de formation de ces historiens, et je peux vous dire que ça hurlait, quoi. Il y avait des moments très très durs parce que ça résistait par rapport aux préconisations de la direction. Donc il y avait une tension entre les habitudes, hein, les routines, et puis ce qui était demandé. Par exemple, j'ai vu un formateur dire non, il faut oublier le mot de naturel, rien n'est naturel. Puis une historienne disant mais enfin, excusez-moi, mais quand même, hein, la tuile, c'est quand même un peu plus naturel que le béton. Hein. Bon, enfin voilà, ce genre de. Donc, ça discutait énormément. Et c'était très, très compliqué. Et puis l'autre. Donc, ils sont tous, d'une certaine façon, sous le regard des uns des autres. Hein. On croit qu'ils sont seuls face à leur objet, mais pas du tout. Ils ont la médiation de procédures matérialisées par des listes de termes, hein, des dictionnaires, des grilles de lecture, des chronologies, etc., etc. Et puis ils ont surtout la médiation intériorisée par toute la culture qu'ils ont acquise, et donc ils savent qu'ils travaillent avec en amont tout le travail qui a été fait avant eux, et en aval le fait qu'ils vont devoir rendre des comptes de ce qu'ils font, et que ben, leur travail va être évalué par leurs collègues. Quelquefois ils travaillent d'ailleurs à plusieurs, ils discutent devant un écran. Moi j'ai enregistré des discussions hilarantes entre deux chercheuses qui n'étaient pas d'accord sur l'intérêt d'une maison, et ça se terminait par l'une qui disait enfin tu me diras pas, elle est quand même belle celle-ci, mais non, et puis le beau ça n'existe pas, enfin bon, c'était vraiment des moments assez extraordinaires. Donc il y a toute cette médiatisation par la culture, hein, du collectif, plus, et c'est très important, en dehors du service même, il y a l'éventuelle utilisation de leurs travaux par, disons, le grand public. Alors d'abord les élus, les maires, est-ce qu'on restitue ou pas le résultat de nos travaux aux municipalités concernées? Alors j'ai vu des régions où ça se faisait très bien, avec des CD-ROM à l'époque on faisait, et où on présentait aux maires les résultats du travail en disant voilà, ça mérite d'être sauvegardé. Ça, vous voyez, il y avait vraiment un souci de pédagogie et de transmission. Et puis d'autres, et malheureusement il n'y avait aucune homogénéité alors au niveau national, d'autres étaient manifestement dans l'idée qu'on travaille pour la science et qu'on s'occupe absolument. On ne met pas, comme disait quelqu'un, les mains dans le cambouis. Hein, on ne va pas se salir les mains à faire des préconisations. Donc il y avait vraiment des cultures de la connexion avec le public qui étaient extrêmement différentes. Et puis il y avait aussi le fait que les résultats du travail allaient être différemment publiés, certains pas publiés du tout, restaurés dans les bases de données, les ordinateurs, d'autres allaient faire l'objet de publications purement scientifiques, qui sont évidemment les plus prestigieuses pour les chercheurs, et d'autres allaient se retrouver dans des petites fascicules touristiques qui seraient distribués dans les offices du tourisme. Donc il y avait toute une gradation des résultats du travail qui là aussi montre comment le patrimoine tel qu'il est fabriqué va trouver des modalités de mise en public extrêmement variées, hein, et qui évidemment là aussi sont source de tensions, de hiérarchies, on dit, bon,
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les chercheurs de l'inventaire travaillent sur commande des collectivités.
Voilà.
Alors, collectivités locales, départementales.
Oui, tout à fait. Alors, d'autant plus depuis que les services sont décentralisés. Voilà, donc il y a toute une série de...
Et c'est eux qui financent.
Et c'est eux qui financent, voilà. Donc, il y a aussi une dépendance, évidemment, à l'égard des financeurs. Bon, voilà, il y a toutes sortes de problèmes internes. Mais moi, je ne voulais pas trop entrer dans ces questions-là parce que ce qui m'intéressait, ce n'était pas de faire une sociologie des organisations de l'inventaire. Ce qui m'intéressait, et je l'ai compris peu à peu en les accompagnant, c'était de travailler sur les critères qui leur permettaient de décider si tel artefact était intéressant.
J'avais en tête, en posant la question, le rapport à l'habitant, qui est un rapport pas
toujours... Ah oui, d'accord. Oh voilà. Bah oui, là, c'était très amusant de voir des vieilles dames essayaient d'interdire à un chercheur de l'inventaire de photographier depuis la rue la façade de leur maison. Et le chercheur qui connaissait un peu le droit disait « Excusez-moi, je suis dans le domaine public, il n'y a aucun problème. » Et les vieilles dames furieuses, persuadées soit qu'on voulait les cambrioler, soit qu'on voulait les taxer. Et c'était très compliqué pour les chercheurs de faire accepter leur travail parce que les gens ne voyaient tout simplement pas l'intérêt. Et notamment, je me souviens d'un petit village avec le chercheur essayant désespérément de photographier une porte très ancienne, magnifique, etc., ferme. Et la dame se mettant devant la porte pour en disant « Elles sont belles mes fleurs, hein, c'est ça que vous photographiez en lui montrant les bacs à fleurs à côté. » Donc là, pour le coup, la perception esthétique, pour moi, c'était parfait. Voilà, j'avais un exemple magnifique de malentendu total. Dans les deux cas, perception esthétique, sauf que ce n'était pas le même objet.
C'était pas la même. Voilà, qui était, et avec aussi cette distinction entre ancien, ce qui est ancien.
Non, mais le vieux, c'est tout le problème du patrimoine. C'est que pour la plupart des habitants, ce qui est ancien, c'est du vieux et donc déqualifié, hein, puisque abîmé, usagé, etc. Et c'est justement ce qui intéresse les spécialistes du patrimoine, en tant que c'est non pas du vieux, mais de l'ancien. Voilà. Et donc, le simple passage du terme vieux au terme ancien est déjà un moment d'entrée dans la problématique patrimoniale, mais du coup, ça crée des malentendus, là encore, très problématiques avec les habitants.
Allez, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, sur la question des... Parce qu'effectivement, je n'ai pas travaillé sur Arques-Nan, mais sur la question, vous avez cité la convention de Faro, qui est la convention cadre du Conseil de l'Europe pour la protection du patrimoine. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France ne l'a pas signée. C'est l'idée qui renverse complètement la situation. C'est-à-dire, suite à une critique, notamment qui est partie d'un certain nombre d'acteurs dans les années 70-80, qui n'étaient pas... dans une vision très européenocentrée, ethnocentrique de monuments, qui ont demandé d'avoir d'autres visions et de prendre en compte, effectivement, prendre en compte les habitants. Donc moi, je me suis, après la Saline d'Arques-Nan, donc c'est pas dans le livre, mais je me suis beaucoup intéressé à un objet très, tout à fait, une sorte d'OCNI, d'objet culturel, d'OPNI, d'objet patrimonial non identifié, c'est-à-dire de patrimonialiser, non pas une borne... des bâtiments HLM, quoi. Des bâtiments HLM portés par les habitants qui considéraient que là, c'était leur patrimoine. La Convention de Faro dit que ce qui est patrimoine, ce n'est pas ce que considèrent les experts, c'est ce que considèrent les gens comme faisant partie de leur patrimoine. Ça s'inscrit dans le mouvement des écomusées ou des centres d'interprétation, etc. Donc c'est quelque chose de tout à fait révolutionnaire qui vient... Du système, je dirais, français administratif, qui s'impose très difficilement. On reste sur une vision, même si évidemment, on l'a vu, il y a eu une extension énorme, très liée aussi effectivement à l'anthropologie, hein, qui un texte, pour donner le texte, il y a cette lutte entre les historiens et les anthropologues dans les années 80, avec ce texte de Pierre Nora, dans lequel il s'appelle Histoire et mémoire, dans des lieux de mémoire, où il dit en fait l'histoire c'est objectif, c'est une science, voilà, on se base sur des choses qu'on vérifie, alors que la mémoire c'est sujet à toutes les reconstructions, ça change tout le temps, donc on ne peut pas faire du patrimoine avec la mémoire. Donc, entre les lignes, on ne peut pas, l'anthropologie, c'est pas à eux de choisir, c'est plutôt aux historiens. Donc ils ont un peu perdu la manche à la fois par l'arrivée d'acteurs comme des anthropologues, aussi par le fait qu'effectivement il y a eu le mouvement associatif s'est considérablement approprié le mot patrimoine pour requalifier des anciens villages, des... et puis aussi, hein, ça c'est important, hein, ce qui explique, parce qu'on dit souvent pourquoi il y a eu une extension, pourquoi il y a eu cet effet-là. Donc on explique souvent ça par voilà, la peur de la perte, par l'avenir qui fait peur, par un certain nombre de réactions qui seraient un petit peu pathologiques souvent. Mais ce qu'on a souvent oublié, c'est que le patrimoine est aussi devenu un enjeu. Il y a un très bon ouvrage, hein, je trouve, qui vient de sortir pas très longtemps avec Luc Boltanski, qui s'appelle Enrichissement, c'est-à-dire qui montre bien comment, dans une société comme la France, depuis 30 ans, tous les objets du passé ont fait l'objet de mise en patrimoine, en quelque sorte, non pas pour les faire échapper du marché, mais au contraire pour les utiliser, pour en faire des outils, finalement, des outils de reconnaissance, parfois, mais aussi souvent, des outils pour redonner ou reconstruire de la plus-value, hein, sur l'invention de la tradition, sur l'invention des territoires, voire même comment les villes aujourd'hui mettent en avant leur patrimoine dans leur diversité, dans leur complexité, pour finalement, plutôt pour des aspects d'attractivité territoriale. Donc on ne fait plus un patrimoine, comme au XIXe siècle, pour nourrir la nation. On ne fait plus un patrimoine aujourd'hui, si on veut être un peu provocateur, pour dans les années 60, pour démocratiser la culture ou émanciper les citoyens. Non, on fait de plus en plus un patrimoine pour nourrir le tourisme et l'économie. Et finalement, aujourd'hui, même si l'inventaire continue à avoir... des procédés qui souhaitent souvent être objectifs, scientifiques, c'est là qu'on voit qu'il y a une vraie lutte, parce que très souvent, moi, quand je discute avec les gens de l'inventaire, on me dit, comme je vois sur une ville comme Lyon, je connais très bien, on voit, bah, moi, je travaille, j'ai fait tout un travail sur le patrimoine industriel, sur des lieux qui sont super intéressants, on les a pris en photo, et choc, on a tout rasé. On a tout rasé, c'est très bien, et derrière, alors on va conserver comme un quartier, comme la Confluence à Lyon, on va conserver quelques éléments, hein, comme des anciens lieux de levage, ou quelques éléments qui vont exprimer en fait un passé, hein, mais très euphémisés, pour plutôt nourrir finalement aujourd'hui, je dirais, l'attractivité territoriale, l'économie. Et donc, c'est ce qui pourrait expliquer, hein, en tout cas en partie, hein, il y a d'autres choses, hein, aussi que le patrimoine aussi est évidemment devenu, avec le musée urbain, les logements sociaux, un outil de reconnaissance. C'est devenu un peu un couteau suisse, en hein, quelque sorte, qui fait que, c'est une valeur très floue, une sorte de mot-valise qui est utilisée par beaucoup de personnes.
Ceci expliquant cela.
Voilà. Est-ce qu'il pourrait en partie expliquer, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, plus que pour des considérations pathologiques de peur de la perte ou...
Daniel voilà. Fabre parle du patrimoine comme quelque chose de ventriloque, ouais, à qui on peut faire dire finalement tout ce qu'on veut. Et c'est vrai qu'il le montre bien dans son introduction, l'introduction des monuments sont habités. Comment le sens premier, celui qui réfère à l'histoire nationale, etc., comment ce sens-là s'est délité et comment aujourd'hui le patrimoine est réinvesti d'autres sens, comme Marc Essevin.
Je juste voulais ajouter une chose par rapport au rapport aux habitants. Justement, le laïc qu'a créé Daniel Fabre, la première plateforme de travail collectif s'appelait les émotions patrimoniales.
Ce n'était pas la première.
Une des premières. Enfin, moi, il m'a appâté là-dessus. Voilà. Bon, d'accord, il a hameçonné avec ça. Bon. Mais ça a été quand même important, oui, hein, oui. Le travail. Donc ça dit bien qu'il s'agissait de prendre en compte le fait que certains habitants, dans certaines circonstances, investissent cette notion de patrimoine de façon quasi politique, et même de façon complètement politique avec les associations. Donc il y a vraiment là aussi un mouvement. Alors il n'y a pas seulement les gens qui ne votent le vieux là où les experts voient l'ancien, il y a aussi inversement un mouvement d'adhésion très fort, hein, à cette idée.
Et qui déborde complètement l'institution.
Absolument, et l'institution pour après, parce qu'elle essaye de récupérer ce qui se passe. Juste sur la question des causes de l'extension, bon, il y a les causes historiques, la modernisation qui fait que. Nostalgie, etc., les causes anthropologiques sur la question de ce qu'il faut conserver, etc. Mais moi, j'ai une autre explication, elle n'est pas du tout exclusive, hein. Il y a plusieurs explications, comme toujours. Quand vous rencontrez quelqu'un qui vous dit qu'il y a une seule cause, c'est qu'il s'est trompé. Hein. Ça marche en physique, mais en sciences sociales, ça ne marche pas du tout. Donc il y a forcément plusieurs causes. Et moi, je pense qu'une cause majeure de l'extension du domaine du patrimoine, c'est l'arrivée de nouveaux acteurs du patrimoine, notamment. C'est le mouvement associatif, notamment la multiplication des disciplines concernées par patrimoine, donc comme j'ai dit tout à l'heure, pas seulement l'histoire de l'art, mais aussi l'histoire, l'ethnologie, l'économie, etc. Et du même coup, la spécialisation des personnes chargées de gérer le patrimoine, les spécialistes, les experts, cette spécialisation engendre une sophistication des techniques, notamment d'inventaire, de classement, etc., qui du même coup amène cette extension, tout simplement parce qu'à force de sophistiquer leur technique, ils voient davantage de choses. Et ça, je l'ai observé sur moi-même. Je suis partie un matin accompagner une chercheuse dans une espèce de faubourg infâme. Bon, je dis, mais c'est moche. Et le soir même, revenant de cette journée, je traverse les mêmes faubourgs. Je dis, ah, c'est drôlement intéressant ça. Bon, en une journée, je m'étais fait le regard. Et donc, c'est cette élaboration du regard et de la technique du regard qui, à mon avis, est l'essentiel de la cause de l'extension du patrimoine, même s'il y en a encore d'autres. Mmh.
Juste ajouter un mot sur les acteurs, puisque vous parlez. Il y a une image, moi, qui me vient, en tout cas en partant de l'exemple des éphémères, c'est l'image d'une chaîne. On a l'impression, en tout cas pour ces objets-là, qu'il y a vraiment une chaîne d'acteurs qui vont contribuer chacun à leur tour à une forme de patrimonialisation, de revalorisation, c'est quel terme il faudrait utiliser. Et là, on voit bien qu'il peut y avoir... Il y a un schéma qui arrive souvent dans les collections d'éphémères, c'est un collectionneur. Un collectionneur qui peut être quelqu'un de tout à fait... ça peut être le fils d'un imprimeur, voilà, qui recueille l'héritage familial, et qui va se dire, voilà, j'ai une collection et je la lègue à la bibliothèque de ma ville. Ou bien un pharmacien qui recueille des prospectus sur la santé ou la médecine et qui va ensuite en faire d'autres. Et là, on entre dans une chaîne où vont intervenir les conservateurs, les archivistes, avec parfois des cultures très comparées, pardon, très variées, et qu'il faut comparer entre elles pour pouvoir les évaluer. Et ce dont on s'est aperçu aussi, c'est que voilà, ces cultures de traitement des objets peuvent être très déconcertantes pour nous, chercheurs, qui découvrions la façon dont... Voilà, nous, en tant que littéraire, je travaille sur des corpus, mais la façon dont ils ont été élaborés, construits par des processus de sélection, de mise en valeur, de nomination dans un catalogue sur un objet, va le configurer.
Je vous donne juste un exemple de ça qui me vient à l'esprit. Ma première enquête sur le patrimoine, en fait, c'était dans les années 80 sur les boutiques à décors anciens qui avaient été inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Et donc, j'avais obtenu un petit financement pour faire une enquête là-dessus. Et dans ce cadre-là, on m'avait parlé d'une collectionneuse d'enseignes parisiennes. Et donc, j'étais allée lui rendre visite chez elle. Et c'était un appartement bourré d'enseignes absolument magnifiques, hein, vieilles enseignes et tout. Et alors, elle adorait sa collection et elle m'en parlait en disant, j'ai essayé d'y intéresser les musées, ils s'en fichent complètement, le ministère de la Culture s'en fiche complètement. Et l'autre jour, je crois dans le Journal des Arts, j'ai lu que elle est morte récemment, cette dame, et que faute de s'entendre avec le musée Carnavalet voulait récupérer toutes ses enseignes, parce qu'ils ont enfin, au bout de 30 ans, 35 ans, compris l'intérêt. Ils ont réussi à en récupérer quelques-unes, mais faute de s'entendre avec les héritiers, c'est parti à la vente aux enchères, et tellement cher que le musée n'a pas pu acheter un certain nombre d'enseignes. Donc en une génération, c'est incroyable à quel point on passe du collectionneur au musée, mais avec souvent des problèmes liés au fait que les institutions tardent tout simplement à intégrer dans leurs procédures et dans leur cadre mentaux, hein, dans leur chaîne cognitive, ce qui permet à des collectionneurs totalement isolés dans leur coin de s'intéresser et de donner de la valeur à ce type d'objet.
Alors Olivier parlait de chaîne, ce qui fait une bonne transition pour passer aux modalités de la patrimonialisation, et Alain a développé l'idée de chaîne de contribution intergénérationnelle pour...
C'était une prise de guerre, si je veux dire. J'avais pris ce concept à Howard Baker, qui voilà, soulignait en gros qu'une œuvre d'art avait besoin d'un certain nombre d'acteurs, et parfois d'acteurs qui ne s'étaient pas forcément rencontrés, et qui étaient plutôt dans la collaboration. Alors, à cette époque-là, j'avais pris ça en me disant Souvent, c'était la mode à l'époque de Bruno Latour, qui voyait finalement la construction de la valeur comme une sorte de le résultat de controverse, avec une vision un peu guerrière, où il faut enrôler des gens, où il faut se positionner, où il faut finalement arriver à s'imposer, à imposer une vision des choses. Et on était un peu dans l'ordre, finalement, des luttes sociales pour l'imposition des valeurs et de la vérité patrimoniale. Et là, moi, je découvrais plutôt, non pas des luttes, il y en a, hein, les patrimoines, on pourra en parler, c'est aussi un élément très inégalitaire, hein. N'importe quoi n'est pas inscrit ou retenu, hein. Il y a aussi des effets de catégories socio-professionnelles, évidemment, on pourrait faire une sociologie critique du patrimoine et on découvrirait qu'évidemment, il y a des inégalités assez fortes. Mais je découvrais aussi voilà, des éléments de collaboration, en me disant un peu comme Ward Baker, bon, pour qu'il y ait un patrimoine, il faut déjà qu'il y ait l'architecte qui fonde le truc. Voilà. Puis à un moment donné, il faut qu'il y ait des gens qui inscrivent ce bâtiment, et puis il faut qu'il y ait la période des Tziganes, qui sont des acteurs involontaires, qui vont tout casser, les éléments techniques, qui vont... il faut ensuite les années 60. Enfin bref, il y avait une succession d'acteurs, chacun en partant en fait sa pierre à l'édifice, hein, comme dit Ward Baker, pour arriver à un résultat final. Et que si on voulait comprendre comment la Saline d'Arcestan était devenue en tant qu'objet iconique de l'utopie, il ne s'agissait pas simplement de prendre finalement un acteur qui se serait imposé, même en l'occurrence cette noblesse d'État, en parlant de Serge Antoine ou de Michel Parent, mais évidemment toute cette chaîne de personnes qui parfois ne sont même pas rencontrées dans l'histoire, hein, et de montrer que finalement le patrimoine c'est aussi ça, c'est des chaînes comme ça sur des temporalités très longues, hein, et ça m'évitait, je trouve, hein, c'était, voilà, on pourrait y revenir, mais ça m'évitait alors de pouvoir être plus critique sur une vision un peu guerrière, l'imposition des valeurs pour y voir plus, pour plutôt mettre en avant des aspects de collaboration d'acteurs. Voilà, c'était pour ça que j'avais utilisé cette chaîne de contribution de collaboration d'acteurs.
Quant à Nathalie, elle développe beaucoup la question des critères qui donc participent de cette patrimonialisation. Je crois qu'on ne peut pas faire l'économie quand même.
Ah non, on ne fait aucune économie, alors on continue. Dans l'économie, on continue.
Avant les critères, sur la question des modalités, c'est comment ces gens-là travaillent, comment les chercheurs de l'inventaire qui font le patrimoine travaillent. Je veux dire, j'ai eu un mal fou à comprendre parce que c'est d'une complexité. Leurs procédures sont extrêmement complexes et je rentrais du terrain totalement désespéré en me disant « je ne comprendrai jamais ». Et un jour que je disais ça à un chercheur, il m'a dit, écoutez, si vous comprenez, appelez-moi, parce que de toute façon, personne ne comprend. Donc, ça m'a un peu détendu. Bon. En fait, moi, j'avais été fascinée par, on reprend Bruno Latour, un livre de Bruno Latour que j'aime beaucoup, qui s'appelle La Fabrique du droit, qui a donc enquêté sur le Conseil d'État. Et c'est en hommage à ce livre que j'ai appelé le mien La Fabrique du patrimoine. Je signale qu'à l'époque, le mot La Fabrique 2 était beaucoup moins...
Que maintenant,
c'est-à-dire que à part le livre de Latour, il n'y avait aucun livre qui s'appelait La Fabrique 2. Maintenant, c'est devenu une tarte à la crème, mais bon, peu importe. C'est très agréable de faire partie du lancement d'une tarte à la crème. Et donc, c'est vraiment, j'avais été fascinée par la façon dont Latour utilisait tous les outils méthodologiques et notamment prenait en photo les notes manuscrites des gens du Conseil d'État, la position des lieux, rendait pertinent des choses qui nous paraissent banales et sans intérêt, mais tout d'un coup, on faisait vraiment l'objet de son regard. J'avais trouvé ça formidable. Et j'ajoute aussi qu'on était en plein dans ce qu'on a appelé en France la sociologie pragmatique, donc avec d'un côté Woltanski-Thévenot, de l'autre côté Latour. Donc j'étais un peu biberonnée à ça, puisque j'étais issue de ces deux courants. Et du coup, pour moi, c'est avéré passionnant, c'était justement d'insister sur cette dimension pragmatique, c'est-à-dire travailler sur les actions en situation et observer les actions en situation et observer leurs conséquences. Bon. Donc, du coup, j'ai passé beaucoup de temps à photographier des gestes, des objets du type le stylo, l'ordinateur, la liste, enfin des choses pratiques avec lesquelles ces gens-là travaillent. J'ai même eu un gros problème parce que j'observais l'inventaire d'un cimetière et le jeune chercheur me montrait avec son doigt une tombe.
Et ce que je voulais prendre, c'est son doigt en photo. Parce qu'il y a toute une théorie de l'index, de comment on montre ce que signifie l'index, le lien sémiotique entre le récepteur, etc. Et dès qu'il voyait que je voulais photographier, il retirait son doigt, évidemment, parce qu'il pensait que je voulais photographier. Alors, j'ai que des doigts flous. Voilà. Mais vous voyez, donc c'était ça, c'est, pour moi, c'était passionnant de découvrir cette façon de travailler. Et elle est compliquée, cette façon, parce que le jour où j'ai voulu publier notamment un article dans Gradiva qui racontait la fabrique du regard sur le patrimoine, j'ai donc voulu mettre ces petites vignettes, des petites photos très concrètes, très matérielles, plus quelques images des bâtiments assez moches, je dois dire, qui étaient l'objet du travail que je documentais dans l'article. Et j'ai eu droit à une iconographe de la revue qui a trouvé que les photos n'étaient pas assez chatoyantes, a-t-elle dit, euphémisme pour dire qu'elles étaient moches, et qui a absolument voulu mettre à la place des photos magnifiques de Depardon sur les vieilles ruines, le patrimoine monumental, qui était absolument à l'opposé de mon article, puisque je commençais en disant que, justement, l'inventaire ne travaillait pas du tout sur cette acception traditionnelle du patrimoine. Donc j'ai failli me fâcher, enfin j'ai voulu retirer l'article, on m'a supplié de ne pas le copier, parce que c'était trop tard par rapport. Bon bref, j'étais très, très fâchée, parce que tout le travail que j'avais fait pour essayer de montrer comment une sociologie pragmatique peut opérer sur la question du patrimoine a été totalement incompris au sein même d'une revue d'ethnologie, ce que je trouvais un peu dommage. Voilà. Et je termine là-dessus. Voilà.
D'accord. Qui est sur les critères?
Sur les critères, si, parce que, oui, pardon. Une fois que j'ai à peu près compris comment se faisaient les modalités, j'ai vu au travail, parce que je me mettais en situation de formation et je demandais à la personne que j'accompagnais, pourquoi vous faites ci? Pourquoi là vous prenez telle note? Pourquoi vous notez la date? Pourquoi vous... etc. Comme si je voulais être formée. Bon. Et eux, ils pensaient que je faisais une inspection. Mais bon, c'est autre chose. Bon. Et donc, ils ont été obligés d'expliciter à haute voix leur façon de travailler. Et dans cette explicitation, il y avait évidemment des paquets de jugements de valeur. Et donc, j'ai retrouvé mon intérêt pour la question des valeurs. Et grâce à ça, j'ai pu élaborer toute une typologie des critères et des valeurs qu'ils utilisent pour décider si tel ou tel objet mérite ou pas d'être pris en compte. Et c'est comme ça que, je ne vais pas les raconter parce qu'ils sont dans le bouquin, mais enfin, et puis on n'a pas le temps, mais c'est comme ça que j'ai pu inductivement, à partir de l'observation de ce qu'ils font sur le terrain, reconstituer ce que j'ai appelé l'axiologie du patrimoine, c'est-à-dire le système de valeurs qui préside à la fabrication du patrimoine.
Et s'agissant des éphémères, je crois qu'on peut mettre en évidence plus d'un parallèle avec justement les chercheurs de l'inventaire par le regard porté sur ces archives. Il me semble qu'ils travaillent notamment à mettre en évidence ce que Nathalie appelle la valeur de significativité, c'est-à-dire l'intérêt que ces archives présentent pour l'histoire avec un grand H.
Oui, c'est ça, et il y a des critères qui sont assez différents qui peuvent jouer. Il y a des polarités. Parfois, il y a un passage de l'axiologie du mineur au majeur. Enfin, on est vraiment dans des documents traditionnellement considérés comme mineurs, ou en tout cas, qu'on n'aurait même pas l'idée de conserver, de toute façon, songe à conserver, regarder une étiquette de prix scolaire sur un livre. Non, on s'intéresse au contenu du livre, mais aller voir l'étiquette pour s'intéresser ensuite par ce biais-là à l'histoire des institutions scolaires du 19e siècle, et c'est quelque chose qui effectivement est une espèce de conversion du regard. Bon, et puis il y a aussi des critères qui peuvent entrer en ligne de compte, comme soit le rare, enfin, le cas des écrans. On a une production énorme et il ne reste que quelques dizaines, ou bien la série. Et l'intérêt que les historiens en particulier peuvent attribuer aux éphémères, c'est la sérialité. Parce qu'on peut créer des corpus, parce qu'on peut faire des comparaisons, parce que la masse fait sens. Les éphémères, individuellement, sont des objets souvent très légers, mais réunis en masse, les conservateurs parfois s'arrachent les cheveux pour leur trouver de la place et les mettre dans des boîtes. Donc, la question du goût aussi intervient. On a l'exemple, par exemple, de la bibliothèque municipale de Dijon, qui a constitué tout un fonds gourmand, qui est axé sur les menus, en particulier, et qui est un projet qui avait été impulsé par la région de Bourgogne également pour cultiver l'image de la Bourgogne, du terroir, du vin, de la gastronomie, etc. Et donc le fonds gourmand est alimenté par des menus, et dans une préface à un catalogue d'exposition, la question de la beauté de ces menus, pour le coup, là, est vraiment mise en avant. Voilà, c'est beau, il y a des procédés en production qui sont en effet, la calligraphie, etc., participent de la reconnaissance de ces objets. Et parfois, les conservateurs disent que dans des projets d'exposition, de valorisation, l'éphémère, les éphémères, tout dépend de catégorie, mais peuvent parler au public. C'est-à-dire que le public va se reconnaître dans « Ah, voilà, ça, c'est la publicité que j'ai vue en mon enfance. Ça, ce sont les bons points de l'école, ou bien ce sont les images de communion, les faire-part de mariage. » On peut se projeter,
s'identifier.
Et ça fait partie, alors, dans une optique de valorisation, non pas par le monument, mais par une histoire vécue du quotidien qui permettrait d'avoir une attractivité de ces objets-là.
D'accord. Donc je crois qu'on peut laisser...
Bah, on va laisser la parole maintenant, effectivement, à la salle. Qu'est-ce qu'on doit mettre ? Allez-y, prenez la parole.
Merci. Merci. Moi, je voudrais dire un mot. Vous m'avez beaucoup intéressé, naturellement. Mais je voudrais dire un mot sur le refus du patrimoine. Nous sommes ici entre intellectuels, sauf erreur, parisiens. Mais il faut savoir qu'il y a une énorme proportion de la population, même française, mondiale encore plus, qui refuse le patrimoine. Ces vieux trucs qui nous embêtent, qui nous encombrent, c'est une paire. Voilà. Alors je voudrais prendre un seul exemple. Il y a une très jolie borne Michelin, très intéressante, à la couverture de votre livre, mais elle date des années 30, vraisemblablement, entre les deux guerres, le développement de l'automobile. Mais je voudrais signaler qu'il existe à Paris une, pas deux, une à ma connaissance, il y en a peut-être deux d'ailleurs, borne en fonte qui date des années 1860, qui est au carrefour d'Alésia et que la ville de Paris, un beau jour, passera au bulldozer. Alors je le signale, moi ça me désolera.
Il vaudrait mieux le signaler au service de l'inventaire. Vous pouvez écrire. Hein.
Oui, ah oui, 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 j'écris beaucoup à l'inventaire. J'ai pas souvent, j'ai jamais de réponse. Parce que je leur propose, malheureusement, de faire l'inventaire d'édifices interdits.
C'est-à-dire ?
Vous savez qu'il y a des édifices interdits dont on n'a pas le droit de parler. Parce que.
Lesquels ?
Le marché couvert de Clichy. Vous le connaissez ? Bah écoutez, allez-y avant qu'il soit détruit, quand même. C'est une œuvre de prouvé internationalement connue. C'est pas à 100 km, c'est à 200 mètres de Paris. Et allez le voir, et il est menacé dans le cadre du Grand Paris d'être remplacé par une tour de 100 mètres de hauteur. En réalité, ce que veulent les gens souvent, c'est... Mais ils veulent aussi du moderne. Je connais des familles où on jette systématiquement ce qui a plus de 5 ans. Ce qui a plus de 5 ans, on n'en veut pas. C'est des vieux trucs, c'est le passé. Voilà, alors je signale ça, il nous reste du travail.
Non mais ce que vous dites, tout à fait vrai, hein, il ne s'agit pas de dire que tout le monde est... C'est une valeur qui s'est considérablement élargie avec une multitude d'acteurs. N'en reste pas moins que ce n'est pas partagé par tous, qu'il y a aujourd'hui, malgré, on parle souvent de muséification du monde, en tout cas de l'espace, des personnes justement de l'inventaire disaient que sur certains territoires, notamment les territoires plutôt populaires, on n'a jamais autant détruit qu'aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de disparaître, qui datent des années 50-60, aujourd'hui, dans une sorte d'indifférence totale. Et peut-être que vous avez raison, c'est-à-dire que on a pendant très longtemps dans l'histoire, c'est la question de la conservation ne se posait pas, hormis, je veux dire, pour légitimer un pouvoir ou quelque chose. On a eu cette parenthèse avec une extension patrimoniale, avec ce souci de la conservation, ce retour du passé sous toutes ses formes à conserver. Peut-être, je n'ai pas de boule de cristal, hein, peut-être qu'évidemment, d'ici une trentaine d'années, on se dit que c'était très drôle cette période où on conservait, il y a encore, dans les années 60, on souhaitait détruire le quartier, une grande partie du quartier du Marais à Paris. Aujourd'hui, ça coûte très cher d'habiter. Vous voyez, tout ça évolue. Ce qu'on constate simplement qu'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a jamais autant d'acteurs et d'appétence pour ces questions patrimoniales, que les critères et les modalités ont considérablement évolué. Bon, dire cela, ce n'est pas dire que, évidemment, c'est partagé par tous.
Je vous donne juste un petit témoignage. Dans le cadre de mon enquête, j'ai voulu assister à des commissions CRDP, je ne sais plus comment ça s'appelle, de classement des monuments historiques. Et on voit que le rôle des maires est très variable, c'est-à-dire que des maires de petits villages soit peuvent s'opposer à un classement parce que ça contredit un projet d'aménagement dont la commune a besoin, soit au contraire supplier que l'on classe un château, un élément, etc. parce que c'est un atout pour la commune touristique. Voilà. Donc on a tous les cas de figure.
Et j'aimerais juste rajouter quelque chose. Et même, on doit faire un article justement sur les enjeux du patrimoine industriel, pour montrer qu'il y a une vraie différence sur le patrimoine industriel. Si vous avez une usine, la même usine qui se situe sur un quartier d'une grande métropole ou à Paris, dans lequel on va pouvoir effectivement utiliser cette usine pour donner de la patine, en quelque sorte, au quartier, hein, vendre des lofts, etc. Là, il va y avoir une injonction du patrimoine, même avec les promoteurs, qui vont dire, voilà, on va conserver, on va même utiliser le terme. Vous avez la même usine dans certaines campagnes, où pour le coup, on a plutôt envie de faire du neuf, etc. Ça va complètement être rasé, et puis on va faire évidemment des... Donc c'est très relatif, hein. Il s'agit au contraire, on détruit beaucoup.
Ça varie suivant l'époque, c'est certain.
Et que c'est très variable.
Et juste un exemple aussi, pour les anciens, il y a parfois un refus, il y a parfois une impossibilité de patrimonialiser. Je pense à un exemple qu'on a rencontré. Comment archiver le web ? À la BNF, la question est de comment faire le dépôt légal du web français, ce qui est impossible, en fait, puisque le principe du dépôt légal étant que l'éditeur envoie le volume, et la BNF a mis en place des procédures qui sont des procédures de prospection, où on va faire des campagnes régulières d'archivage, mais évidemment, il y a des centaines de milliers de pages qui
échappent.
Et pourtant, il y a une volonté d'archiver, alors je ne sais pas si on parle d'archive au patrimoine, mais... Mais
l'oubli est nécessaire.
Mais voilà. Je crois que c'était aux États-Unis. Il y avait une tentative pour archiver les comptes Twitter, archiver Twitter, qui a été abandonné parce que, évidemment, la masse devient ingérable.
Les archives ont tout de même des méthodes.
Tout à fait.
Hein, sélectives, on garde 1 sur 10, 1 sur 100, oui. Etc. Donc, on peut retrouver des choses.
Il faudrait
garder
un tweet sur 100 000, peut-être, ou sur 3 millions. Ouais.
Il faut bien choisir.
Mais c'est au hasard, c'est au hasard.
Par contre, les tweets de Trump sont
voilà.
Corpus. Ah oui, il faut les garder tous.
Les tweets de Trump, oui. Avec la question
de... Il y a deux questions.
Allez, c'est à propos de ce que Alain Chenovez a dit sur la noblesse d'État, qu'il ne pouvait plus se mobiliser pour marquer son heure. Et en même temps, ça rebondit sur la question des valeurs abordées par Nathalie Henrich. Parce que je crois qu'il ne faut pas oublier qu'autour de Serge-Antoine, il y avait une familiarité avec les architectes qui était très grande, familialement d'abord, et puis ensuite par des cercles d'amitié divers, avant même son intérêt pour Arquessonneur. Et je crois que là, il y a quelque chose qui a pu se jouer de manière très forte, et de là son amitié d'ailleurs avec les parents, bon, et qui ont fait qu'ils ont pu mobiliser un ensemble d'acteurs, un ensemble de personnages, de personnalités, même notre salon de cas, parce qu'ils ont su mettre en avant un ensemble de valeurs qui, du fait et vous l'avez mentionné, du fait de l'accent mis sur l'utopie ou sur la cité idéale, était propice au projet à la fois politique et politique, de faire un centre de prospective international. Bon, et donc il y a eu là une convergence
qui font qu'on ne peut pas simplement dire noblesse d'État. Je crois qu'il faut aller un peu plus profond ou un peu dans les soubassements, c'est-à-dire justement regarder aussi quelles étaient l'ensemble des valeurs qui mobilisaient, qui motivaient, qui activaient, peut-on dire, ces différents cercles pour arriver finalement à ce que la DATAR donc reprenne au moins dans un premier temps les salines au département.
Oui, non, mais vous avez raison. Ce qui m'a fait parler de noblesse d'État, c'était cette. J'ai bien connu Serge Antoine qui m'emmenait avec lui partout dans les ministères, qui avait une facilité d'avoir accès à plein de gens, à la fois des architectes dans les ministères, et qui, chaque fois qu'il me présentait, me disait. Alain Chenevet, mon historien, il pensait que j'allais faire son histoire, etc. C'était pas vraiment le cas, mais il avait une telle facilité pour moi, qui était, entre guillemets, plutôt provincial, pas forcément de milieu. J'étais fasciné par cette capacité à rencontrer une multitude de personnalités en très peu de temps, en allant déjeuner chez lui, en voyant le préfet qui était en retraite, qui était l'ancien préfet de Bourgogne-Franche-Comté. En même temps, il y avait Michel Parent. En même temps, il y avait des architectes. Il y avait des gens comme Jouvenel. Enfin, on était vraiment dans une sorte de microcosme, une sorte dans lequel on avait l'impression que tout était simple. Oui, enfin, en tout cas, tout était facile. Mais n'en reste pas moins, évidemment, que derrière ça, on ne peut pas uniquement relier ça à une sorte de cynisme avec une prise de pouvoir spatiale d'un univers. Évidemment que derrière ça, il y avait toute une. On était vraiment dans une période où l'État. Il y avait cette notion évidemment de progrès où l'État se voyait comme un État qui allait intervenir, qui avait besoin de. Ils imaginaient quand même des choses complètement irréalistes hein, sur des colloques sur une semaine à Arquesnans ou ailleurs où on allait parler de la voiture volante ou des choses qui peuvent nous paraître complètement délirantes aujourd'hui. Mais c'était très sérieux et donc ils avaient cette idée qu'on allait quelque chose qu'il fallait absolument aujourd'hui dans cette société. Post-industriel presque, il fallait qu'on réfléchisse à de nouvelles valeurs qui s'appuient évidemment sur la culture, sur le patrimoine, pour essayer de nourrir des imaginaires communs. Il y avait évidemment tout ça. Donc c'est sûr qu'il ne s'agit pas de les réduire à une prise de pouvoir un peu cynique. N'en reste pas moins que pour moi, qui découvrait cet univers-là, même pour moi, même pour aller faire des archives, quand il fallait faire les archives vous savez qu'il y a des lois, vous ne pouvez pas aller récupérer des archives moins de 150 ans si c'est nominatif, etc., pour protéger la vie privée, etc. Sur un simple coup de téléphone de Serge Antoine, j'ai un courrier du préfet qui m'autorise à les faire en 24 heures. Vous voyez, donc cette sensation de que tout était simple, que je découvrais un univers où finalement, là, les règles étaient. Et on se connaissait, il y avait beaucoup de sympathie, il y avait beaucoup de. C'était très agréable, toujours avec beaucoup de convivialité. Hein. Tous ces gens-là étaient. Moi, j'ai passé des moments formidables. Hein. Ils sont tous à la fois intelligents, très sympathiques, prêts à vous aider. Voilà, donc je découvrais cet univers-là. C'est pour ça que je parle de... Et en même temps, évidemment, j'avais lu ce bouquin de Bourdieu qui s'appelait La noblesse d'État, qui nous montrait, et comme Serge Antoine, Janson de Sailly, enfin, il avait exactement le parfait profil que démontait un peu Bourdieu. Donc c'est pour ça que j'évoquais ça, sans réduire, évidemment, vraiment l'estime très, très importante que j'ai eue pour Serge Antoine, qui m'a beaucoup aidé à tout niveau pour me donner plein d'accès, et puis pour me... Voilà, m'ouvrir aussi l'esprit sur des visions philosophiques que je pense aujourd'hui l'État pourrait avoir, en tout cas dans sa manière un peu de réfléchir, d'avoir une vision, une signification de ce qu'il souhaite, en tout cas. Ce qui, à mon avis, aujourd'hui, plus vraiment le cas. Enfin, ça, c'est une autre histoire.
Question ? Oui. Je pense que le patrimoine est souvent révalorisé par son image, au niveau esthétique. Je pense qu'à la fin, assez souvent presque, surtout pour les touristes, ça devient comme un objet souvenir, une espérance ou bien tout simplement une fascination.
Les racines,
c'est mon point de vue.
C'est une des dimensions, oui, mais ce qui est bien, c'est que ça fait de mal à personne. Quoi. Et qu'en plus, ça permet de préserver des objets qui nous font plaisir par leur. par leur capacité à maintenir le lien avec le passé, c'est l'ancienneté, par leur capacité à attester qu'il y a un lien qui reste fort entre l'état actuel et l'état d'origine, c'est ce qu'on appelle l'authenticité, notamment le corps des personnes qui ont fabriqué ces objets, par leur capacité de rareté, et la rareté est un élément fondamental, hein, la singularité dans la critériologie du patrimoine, aussi par la signification qu'ils revêtent en nous permettant d'accéder à l'histoire des usages, à toutes sortes de documentations historiques. Tout ça, ce sont des valeurs qui nous permettent de construire un monde commun. Et je pense que le patrimoine est une contribution aussi à la matérialisation de ces valeurs qui font un monde commun. Donc, de mon point de vue, s'il faut avoir un point de vue, une opinion sur la question, moi j'ai plutôt de la sympathie pour le patrimoine, parce que, encore une fois, je pense qu'on a plus intérêt à avoir des choses qui nous réunissent que des choses qui nous divisent. Voilà. Et le patrimoine fait partie de ces choses qui, en général, nous unissent, sauf lorsqu'il y a des divisions, soit sur le fait de savoir s'il faut garder ou pas, soit sur le fait de savoir comment il faut garder ou ne pas garder, soit sur le fait de savoir au nom de quoi il faut garder ou pas. Et là, on retombe dans toutes les controverses, hein, qui font le bonheur des sociologues et des ethnologues, mais qui font évidemment la difficulté de l'exercice de la fonction de maire, de l'exercice de la profession de l'historien d'art, etc.
Et ça crée des emplois non délocalisables.
Oui. Il y a une question.
Vous avez parlé, Yannick, en introduction, des problèmes de la réserve. Franquette avait été commandé la suite de, voilà, on a identifié les problèmes de la réserve. Et je voulais savoir, vous n'êtes pas trop étendu, quels étaient ces problèmes. Vous n'en parlez pas dans votre livre, il me semble. Et est-ce que votre enquête, justement, elle a permis d'apporter des éléments de réponse à ces problèmes,
J'aimerais vous dire oui, mais... Alors, j'ai demandé aux commanditaires, donc au service de l'inventaire, d'avoir une réunion de fin de contrat. Ça se fait toujours, normalement, puisque une enquête comme celle-ci fait l'objet d'abord d'un rapport d'enquête qu'on donne au service qui vous l'a commandé, c'est la contrepartie du financement, et ensuite, si le chercheur le souhaite, il peut en tirer des articles et éventuellement un livre. J'ai fait plusieurs articles, j'ai fait un livre, etc. Mais à l'issue de la remise du rapport d'enquête, on a fait cette réunion de fin de contrat qui s'est plutôt bien passée. Mais avant, ça avait été en fait assez houleux parce que, une partie des lecteurs de mon enquête au sein du service estimaient que je ne mettais pas assez, que je ne valorisais pas assez le travail du service parce que je montrais trop les problèmes. Voilà, ben oui, parce qu'il y avait des tas de contradictions entre ceux qui voulaient imposer une méthodologie homogène toutes les tensions internes au service, j'en parlais un petit peu, bien que ce ne soit pas l'objet du livre, et ça avait été assez mal perçu. Bon. Notamment le fait que la proscription du critère de beauté était très très difficile à suivre sur le terrain et que la plupart des chercheurs, malgré tout, utilisent le critère de beauté. Voilà, donc les tensions, elles sont très variées, elles sont liées à la complexité des procédures, à la question de l'informatisation qui avait créé d'énormes problèmes, à l'hétérogénéité des formations. Il y avait des chercheurs qui avaient 65 ans, qui partaient à la retraite, d'autres qui commençaient tout juste, donc d'une génération à l'autre, ils n'avaient pas forcément la même façon de travailler. Enfin voilà, il y avait toutes sortes de problèmes. En tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est que maintenant, lorsque je croise des chercheurs de l'inventaire, il arrive qu'ils me disent « Ah ben formidable, votre livre nous sert de manuel, parce qu'on manquait d'un vrai bon manuel. »
Comment on fait ?
Voilà, comment faire, quoi. Et bien grâce à votre livre, maintenant on sait comment il faut faire. Voilà. Donc ça m'amuse beaucoup, parce que ça met le doigt sur un des problèmes, hein, du service, qui était la complexité des procédures et leur... la tension entre ce que voulaient ou pouvaient faire les chercheurs et ce qui était attendu. Donc je peux vous dire, pour certains, mon livre sert de manuel, ce qui pour moi est une excellente conséquence du travail, même si évidemment ce n'était pas le but.
Merci. Vous parlez assez peu de, dans votre livre aussi du moment où c'est décentralisé en région, qui a été une grosse
gros élément de temps. Parce que j'ai fait l'enquête avant. Ah oui, j'ai fait l'enquête en 2003-2004. Ouais. J'ai rendu le rapport en 2005-2006, je ne sais plus, juste au moment où se mettait en place la décentralisation. Donc je n'ai pas voulu intégrer ça dans mon travail, d'abord encore une fois, parce que je ne fais pas de la sociologie des organisations, ça ne m'intéressait pas. De même que je n'ai pas du tout intégré la question de l'origine sociale des chercheurs, ce n'est pas du tout
ma
problématique. Et je ne voulais pas ajouter, déjà que c'était suffisamment complexe, ajouter ce niveau de complexité, mais c'est vrai que du coup mon rapport était un peu intempestif parce que bon, au moment où il était rendu, les problèmes étaient ailleurs. Quoi. C'était concrètement comment on se débrouille avec la décentralisation.
Ça a été perçu comme une déchéance pour beaucoup.
Oui, bien sûr. Non, c'est... Maintenant, il faudrait faire une autre enquête sur les effets de la décentralisation, mais ce ne sera pas moi qui la fera. Par contre, si vous avez envie de la faire, il faudrait qu'on comprenne.
Parce que je crois que c'est très hétérogène.
Oui.
D'une région à l'autre, et les fusions ont dû encore...
On dû encore complexifier les choses.
Ouais.
Les régions sont...
Je crois qu'il faut qu'on arrête là.
Oui, en fait, je vous invite donc à aller vers la librairie qui s'appelle Les Mots Retrouvés, qui est à disposition pour vendre ses ouvrages, et vous offrir un verre, et continuer à discuter, parce que je sais que cette discussion a soulevé beaucoup de questions, y compris moi qui suis frustrée de ne pas avoir posé la mienne. Donc...